Merci, Monsieur le Président. Je partage entièrement la discussion antérieure à propos de la nécessité de ne dire que la vérité. C'est qu'il y a quelques semaines, le ministre des Affaires étrangères français, dans son allocution devant tous les ambassadeurs de France réunis en 11e conférence des ambassadeurs de pays, a prononcé les mêmes mots. Il a dit, le premier principe de la diplomatie française, de votre travail, devrait être le principe de la vérité. Donc si nous avons été ici en tribunal, j'aurais juré la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais puisque nous ne sommes pas au tribunal, je dirais toute la vérité que je connais. Maintenant, la question suivante posée par Mr. Mastny, et qui est la question suivante de notre ordre du jour, c'est la continuité, le follow-up. Alors, je dirais que dans la conception soviétique et du pacte de Varsovie, dès le premier pas, il y avait l'idée de la continuation du processus pan-européen, exprimée en deux propositions, en deux idées claires. La première, la conférence de Helsinki ne devrait être que la première, et qu'il devrait y avoir d'autres conférences de ce genre. Le point 2, nous avons proposé la création d'un organe permanent à la conférence de Helsinki. Déjà en 1969, à la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays du pacte de Varsovie à Prague, nous avons formulé le troisième point de l'ordre du jour. La création par la conférence pan-européenne d'un organe sur les questions de la sécurité et de la coopération. C'était une position très ferme, sans brancher, de l'Union soviétique. Nous avons insisté sur la création d'un tel organe jusqu'à la dernière possibilité. Pourquoi je dis jusqu'à la dernière possibilité? Parce que l'Occident était catégoriquement contre ceci. Mais il y avait une tendance née dont mon ami l'ambassadeur Brunner a parlé. Les États membres et surtout les pays neutres voulaient la continuation. Mais ils comprenaient aussi que notre proposition de la création d'un organe permanent était prématurée. C'est pourquoi on a proposé vers la fin de la conférence de Genève de remplacer cette idée, mais ce n'est pas nous qui avons proposé ça, de remplacer l'idée de l'organe permanent par un processus de follow-up, c'est-à-dire par l'organisation de toute une série de conférences destinées à vérifier l'application de l'acte final, mais plus que vérifier. La conférence de Belgrade s'est soldée par un échec parce qu'elle ne s'est consacrée qu'à la vérification. La conférence de Madrid a donné de bons résultats parce que nous avons insisté que ce soit à la fois une conférence de vérification et du progrès. Donc, je souligne clairement l'idée de la continuation, de la création d'un organe permanent, c'était l'idée des pays du pacte de Varsovie, et nous sommes heureux que maintenant, il y a quelques années, la décision a été prise, cet organe existe. C'est la réponse à cette question. Maintenant, la réponse à la question, quand est-ce que l'Union soviétique a accepté l'idée de la détente militaire? D'abord, c'était une idée acceptée par nous dès le début du processus, de la détente. Les idées sur le désarmement, c'était les idées sur la détente militaire. Et nous avons décidé, le compromis, d'organiser une conférence à part pour les mesures du désarmement en Europe. Et en 1970, comme M. Masny a dit, Brejnev a déclaré publiquement, nous sommes pour la détente militaire. Et l'idée a été formulée sous forme que vous connaissez pendant les conférences multilatérales à Dipoli. Là, les formules ont été mises d'un commun accord sur le papier. Un autre élément, la discipline des pays du pacte de Varsovie. Je suis tout à fait d'accord de l'autre côté avec mes amis, l'ambassadeur de Jacques Andréani, l'ambassadeur Brunner. La discipline était parfaite. Pourquoi? Parce que nous avons introduit autour de la conférence pan-européenne une discipline créatrice, une discipline beaucoup plus démocratisée qu'avant. On a tenu compte pendant des conversations au niveau le plus élevé, au niveau des ministres et au niveau des délégations, de tous les points de vue. Et on a formulé les positions d'ensemble, c'est pourquoi nous avons agi d'un commun accord. À la conférence de Madrid, les meilleurs alliés d'un professionnalisme exemplaire étaient les Polonais. L'ambassadeur Rothschild, l'ambassadeur Novak, c'est avec eux que nous avons tourné la conférence de Madrid sur une voie constructive. Et la dernière remarque, je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur Witte que la troisième corbeille conserve toute son importance aujourd'hui. Je le souligne pourquoi. Il a parlé des familles divisées et des problèmes humanitaires que cela provoque. Je vais attirer votre attention sur un fait très simple. D'un coup, je n'entre pas dans les raisons historiques, mais d'un seul coup, 25 millions, 20, non pas une personne, 144 personnes ou 14 personnes, 125 millions de Russes se sont trouvés dans une situation des citoyens étrangers. Dans les lieux où ils sont nés, dans les lieux où ils ont vécu depuis des générations, dans les pays nouveaux de la communauté qui s'est formée après la liquidation de l'Union soviétique. 25 millions avec tous les problèmes humanitaires que cela pose. Et c'est pourquoi c'est très, très actuel pour nous et nous essayons de résoudre ces problèmes sur la base du processus de Helsinki et dans l'esprit de Helsinki. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre accueil. Merci.
Merci, Madame, Ambassador Dubinin, and we go on with Ambassador Lightfoot. The floor is yours, please.